Excellent réveil à tous. Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le Royaume-Uni et l'Europe encore dans l'impasse ce matin. Les députés britanniques ont de nouveau rejeté hier soir l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May avec Bruxelles. Le Brexit se fera-t-il donc sans accord? Sera-t-il reporté? Aura-t-il lieu? Tout simplement. Tour d'horizon des options dans ce journal.
Et puis on va évoquer la situation en Irlande, Catherine, où l'on craint le retour d'une frontière physique en cas de Brexit.
Elle a une encore, 6 ans de prison pour l'ancien numéro 3 du Vatican, le cardinal australien George Pell, coupable de pédophilie. Les forces démocratiques syriennes annoncent la fin de la présence des djihadistes de Daesh à l'est de la Syrie. Et puis en France, la privatisation du groupe ADP Aéroport de Paris revient aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Et puis dans une dizaine de minutes, j'ai une question pour vous Catherine, mais pas que. Moins dormir, est-ce mettre sa santé en danger? On posera la question à Arnaud Maitlaine, il est spécialiste des pathologies du sommeil au Centre du sommeil et de la vigilance de l'hôpital de l'Hôtel Dieu.
Le Royaume-Uni pourrait-il quitter l'Union européenne sans aucun accord? Les députés britanniques vont se prononcer sur la question aujourd'hui, à 16 jours de la date prévue du Brexit et au lendemain d'un nouveau rejet du texte négocié par la première ministre britannique avec l'UE. Le seul et le meilleur accord possible, expliquait encore hier Theresa May devant les députés. Cet accord a été balayé hier soir par 391 voix contre et 242 pour. Theresa May totalement désemparée. Le reportage à Londres d'Antoine Gignot.
La photo fait la une des tabloïds et des journaux. Theresa May, le regard vide, les bras ballants à l'annonce des résultats du vote. Le scrutin la laisse sans voix, au sens propre comme au sens figuré.
Je regrette profondément la décision que le Parlement a prise ce soir. Je vais être très clair. Ce n'est pas en votant maintenant pour une sortie sans accord de l'Union européenne ou en votant pour repousser le Brexit qu'on va résoudre nos problèmes. Il y a des choix qui ont été faits, il va falloir les assumer.
Car les députés vont maintenant devoir se prononcer sur une sortie sans accord ou sur un éventuel report du Brexit. Theresa May se dit prête à appuyer le scénario que choisiront les parlementaires, mais Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, réclame sa tête.
La première ministre a voulu jouer la montre et c'est elle qui a perdu. Il est peut-être temps d'organiser des législatives anticipées pour que les gens puissent choisir qui doit gouverner.
Et étonnamment, les patrons britanniques ne sont pas loin de partager la même opinion. Dans un communiqué, la Confédération des industries laisse échapper cette phrase « Il est temps que le Parlement arrête ce cirque ».
Les milieux économiques inquiets effectivement face à une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne, une option que vont défendre aujourd'hui les partisans d'un Brexit dur avant un vote du Parlement sur la question. Mais face à ceux qui imaginent un Royaume-Uni florissant, capable de nouer des accords commerciaux ambitieux à travers le monde à compter du 29 mars, les milieux économiques craignent eux un effondrement de la livre, une flambée des importations et un retour des formalités douanières. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Catherine.
La question de la frontière entre les deux Irlandes, le risque d'un maintien dans une union douanière, c'est ce qui a poussé le DUP, les députés unionistes nord-irlandais, clé de voûte de la majorité parlementaire de Theresa May à Londres, a lâché donc hier, Marie-Pierre, le gouvernement.
Oui, c'est toujours ce qui coince, à peu près plus de 2 ans et demi de négociations, ce caillou dans la chaussure que personne n'avait anticipé et qui vient gripper la machine de sortie de l'union. Pour éviter le retour d'une frontière dure entre les deux Irlandes, marquée par les violences intercommunautaires auxquelles les accords dits du Vendredi Saint ont mis un terme et qui ne veut pas les voir se raviver. L'accord conclu permettait à la Grande-Bretagne de ne pas remettre une frontière entre ces deux Irlandes en restant dans l'union douanière avec l'UE, le temps qu'une solution plus pérenne soit trouvée. Inacceptable pour les députés unionistes nord-irlandais, brexiteurs endurcis qui redoutent de rester liés à l'Union européenne. Le conseil juridique du gouvernement britannique qui n'a pas écarté ce risque hier les a convaincus de camper sur leur position de refus, ce qu'explique à la BBC le porte-parole du DUP, Sammy Wilson.
Pour l'Irlande du Nord, cela signifie que nous serions coincés dans l'Union européenne alors que le reste du Royaume-Uni en sortirait, ou alors que le Royaume-Uni resterait bloqué indéfiniment dans une union douanière avec l'UE et dans le marché unique, ce qui ne respecterait pas le résultat du référendum.
Leur crainte est aussi, on l'entend, de voir s'esquisser une réunification de l'île d'Irlande et une rupture avec la Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique doit lui dévoiler ce mercredi ses intentions quant à la frontière entre les deux Irlandes. Il ne prévoit pas de rétablir de quelconque contrôle, croit savoir la BBC, ni de collecter de taxes, faisant confiance aux entreprises pour faire leurs propres déclarations. Une application permettrait d'enregistrer à distance le commerce transfrontalier, une dématérialisation déjà qualifiée à Bruxelles de plan Harry Potter. Le problème, c'est qu'il semble que Londres, sur le Brexit, n'ait toujours pas quitté le registre de la fiction.
Marie-Pierre Vérot, et la solution à l'impasse ne peut être trouvée qu'à Londres. C'est ce qu'a indiqué l'Élysée hier. Quant à l'Union européenne, elle s'est dite prête à examiner une éventuelle demande de Londres de reporter le Brexit au-delà de la date prévue du 29 mars. Les députés britanniques pourraient voter un report demain à condition que l'option d'un Brexit sans accord soit rejetée aujourd'hui à Westminster. Au chapitre européen encore, les 28 ont décidé d'élargir leur liste noire des paradis fiscaux hier pour la porter de 5 à 15 pays, incluant les Émirats arabes unis, et ce malgré les réticences de l'Italie, soucieuse de ses intérêts économiques. Ce matin, Abu Dhabi dit regretter la décision de l'UE de l'inscrire sur la liste noire des paradis fiscaux. C'est une mesure qui va bénéficier aux 737 détenus qui attendent dans le couloir de la mort en Californie. Le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, va annoncer aujourd'hui un moratoire sur les exécutions capitales. La peine de mort est incompatible avec nos valeurs fondatrices et atteint au plus profond l'idéal que représente le fait d'être californien. C'est ce que déclare le gouverneur démocrate entré en fonction en janvier dernier. La Californie va ainsi rejoindre le Colorado, l'Oregon et la Pennsylvanie dans la liste des États qui ont décrété un moratoire sur les exécutions aux États-Unis, en plus des 20 qui ont aboli la peine de mort dans leur législation. L'ancien numéro 3 de l'Église catholique a été condamné à 6 ans de prison ce matin pour pédophilie. Le cardinal australien George Pell, ancien conseiller du pape François et ex-trésorier du Vatican, est resté impassible à l'énoncé de la sentence. Il est inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels pour avoir violé deux enfants de cœur dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne. C'était dans les années 90. Le père d'une de ses victimes, victime morte d'une overdose d'héroïne, estime que la peine de 6 ans de prison pour le cardinal Pell est beaucoup trop clémente. Direction la Syrie, à présent, où près de 3000 djihadistes se sont rendus hier aux forces démocratiques syriennes dans l'est du pays, tout près de la frontière avec l'Irak, dans le dernier réduit du groupe État islamique. Aurélien Colli, envoyé spécial de France Culture dans le village de Baghouz.
Baghouz, c'est terminé. Daesh, c'est terminé. Confidence d'un responsable des renseignements kurdes, croisé à quelques kilomètres de l'enclave, entouré de son unité de combattants et d'une cinquantaine de djihadistes qui se sont rendus. Des hommes dans un état pitoyable, amincis, hagards, épuisés. Certains sont sur des brancards faits de palettes de bois. D'autres marchent à peine, bandages ensanglantés sur un bras, sur une jambe, perfusion de fortune et poche de sang dans la main. C'est ça la reddition de Daesh dans la discrétion du désert syrien. Un califat de gueule cassée après des semaines de frappes aériennes et de harcèlement des troupes arabo-kurdes au sol. Dans le groupe, des Syriens, des Marocains, des Tunisiens, des Turcs, des Ouzbeks, mais pas de Français ni d'Européens. Il y en a à l'intérieur de l'enclave, confie l'officier de renseignement, qui explique que son unité attend un millier de djihadistes pendant la nuit, des combattants et leurs familles qui se seraient rendus. Il ne restera plus que 700 personnes à l'intérieur, mais cette nuit, il y aura de nouvelles frappes et ils sortiront, assure-t-il, avant d'estimer que l'enclave sera vidée de ses combattants dans les 24-48 heures et que la défaite militaire de Daesh sera officiellement annoncée dans les 3 ou 4 jours.
Aurélien Colli, envoyé spécial de France Culture en Syrie. Des milliers d'étudiants ont manifesté hier en Algérie pour dénoncer la ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Le Raïs a annoncé le retrait de sa candidature à un cinquième mandat présidentiel, mais il a reporté sine die la prochaine élection prévue le 18 avril prochain, le temps d'accoucher d'une nouvelle Constitution. On y revient dans le journal de 7h30.
7h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. La privatisation du groupe ADP Aéroports de Paris au menu de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Dans le cadre de la loi Pacte qui revient donc en seconde lecture dans l'hémicycle, à droite comme à gauche, l'opposition dénonce le projet de l'exécutif de céder des parts dans un groupe stratégique. Certains prenant pour exemple la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, un groupe chinois. La Cour des comptes l'a qualifié d'échec. Mais les deux opérations sont-elles comparables ? L'analyse de Stéphane Saussier, professeur d'économie à la Sorbonne.
L'exemple de Toulouse, en fait, c'est un exemple intéressant. L'aéroport est bien géré, donc il n'y a pas de problème particulier. Ce qui pose problème, d'après le rapport de la Cour des comptes qui a regardé ça un petit peu en détail, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse du cahier des charges, des incompréhensions entre les différents acteurs concernés, notamment des incompréhensions linguistiques, et puis un manque d'expérience des candidats au rachat. Ce qui veut dire concrètement que ce qui peut poser problème dans ces privatisations, dans ces contrats de concession, c'est la manière dont vous contrôlez ces acteurs dans leur activité. Donc concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le cas d'ADP, si on décide de privatiser et de passer un contrat de concession, il y a toute une partie qui est très fortement régulée et où on n'a pas trop de questions à se poser. Donc tout ce qui est vraiment essentiel, comme le contrôle aérien, les douanes, le contrôle des migrations, etc., ça va vraiment relever d'une gestion publique et ça va être régulé très finement. Par contre, tout ce qui concerne l'expérience client, la gestion des boutiques, la gestion des parkings, les infrastructures et les investissements dans ce type d'infrastructure, là, ça sera régulé par le contrat. Et donc, il y aura un cahier des charges qui peut être plus ou moins laxiste ou plus ou moins précis. Et c'est là qu'il peut y avoir quelques difficultés.
Stéphane Saussier, professeur d'économie à la Sorbonne, il répondait à Adrien Toffolet. Un sérieux camouflet pour les partisans d'Europa City, le méga complexe immobilier du groupe Auchan et du chinois Vanda au nord de Paris. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé hier le plan local d'urbanisme de la ville de Gonesse, un PLU qui permettait de rendre constructibles 300 hectares de terres agricoles. Un soulagement, cette décision judiciaire, pour les opposants à Europa City qui parlaient d'un projet de l'ancien monde, Anne-Laure Chouin.
C'était devenu l'emblème de l'artificialisation des terres agricoles. Ces 300 hectares coincés entre les aéroports du Bourget et de Roissy et entre les centres commerciaux de Paris-Nord et d'Aéroville qui auraient permis, selon les défenseurs d'Europa City, d'accueillir 230 000 m² dédiés au commerce, 50 000 à des équipements culturels, 150 000 aux loisirs, avec notamment une piste de ski indoor. Le tout pour plus de 3 milliards d'euros, capable d'attirer 31 millions de visiteurs par an. Pour y accéder, la gare de la future ligne 17 était prête à sortir de terre, mais la justice administrative a infligé un sérieux revers au projet, motivé par trois arguments de fond. Une évaluation environnementale insuffisante, le tribunal a estimé que le projet présentait un impact écologique trop important et qu'aucune solution de substitution à cette urbanisation d'excellentes terres agricoles n'avait été sérieusement envisagée. Deuxième argument, le bruit. Si le triangle de Gonesse est resté inhabité, c'est aussi parce que les nuisances sonores y sont difficilement supportables. Y construire des hôtels paraissait donc illogique. Enfin, et c'est peut-être l'argument le plus important, le PLU voté par le conseil municipal de Gonesse repose, selon le tribunal, sur une erreur manifeste d'appréciation. En l'occurrence, une sous-estimation du bouleversement de l'équilibre entre le développement urbain et la nécessaire préservation des milieux naturels et agricoles, et une surestimation des bénéfices économiques escomptés, notamment les emplois.
Le maire de Gonesse promet lui de faire appel et assure qu'il bénéficie du soutien de l'État, un soutien pour l'instant discret. Le camembert industriel fabriqué au lait pasteurisé pourra-t-il prétendre à une AOP, une appellation d'origine protégée ? Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, mais l'Institut national des appellations d'origine pourrait en décider autrement. Alors que cette AOP était jusque-là réservée donc au fromage fabriqué avec du lait cru, moulé selon une gestuelle et des outils particuliers, une bataille initiée par les industriels laitiers depuis quelques années. Contre cette décision, le député Modem du Loiret, Richard Ramos, va organiser aujourd'hui une distribution de camembert AOP à l'Assemblée nationale. Le temps de ce mercredi 13 mars, marqué par des giboulées et du vent une fois de plus. Au meilleur de la journée, il fera entre 9 et 14 degrés en général, jusqu'à 20 en Corse, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. 7h13, vous avez dormi combien de temps cette nuit, Catherine ?
J'ai dormi 7h.
7h.
Et dans sommeil ininterrompu.
Plus que la moyenne des Français, on va parler du sommeil dans quelques instants.